Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère. Pour Palestine 13, je vous rappelle que si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner actualités et documents de fond, pages culturelles ou sportives, et bien sûr, vous y trouverez l'agenda des événements locaux liés à la Palestine et au Moyen-Orient. Conférences, films, rencontres, ventes de produits palestiniens. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma, le sponsor de l'OM, honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes. Illégal, car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud. Ce soir, je vous propose une émission en deux parties. D'abord, je vais vous parler d'un communiqué de l'agence Média Palestine, agence dont je vous conseille la consultation régulière. Cet article relatait une information qui m'a beaucoup intéressée, voire émue, et je voulais vraiment la partager avec vous. C'est une information musicale, mémorielle, vous verrez, vous aimerez. Et en seconde partie, dans le cadre de notre envie commune de bien comprendre ce qui se passe en Palestine, je vous proposerai une petite conférence d'un grand spécialiste du Moyen-Orient, Pascal Boniface. Et puis bien sûr, il y aura de la musique. Je commence par cette information mémorielle et musicale que j'avais très envie de partager avec les auditeurs de Radio Galère. Momim Swatat a découvert 10 000 cassettes en Cisjordanie pendant le couvre-feu et a numérisé l'album Intifada de Riyad Awad. Alors que le Covid déferlait sur le monde au printemps 2020, Momim Swatat, un acteur-réalisateur palestinien vivant à Londres, s'est retrouvé coincé dans sa ville natale, la cité cisjordanienne de Jenin. Lors de promenades dans les rues silencieuses, il a été attiré par les volets fermés de Tariq Cassette, un magasin de musique et label de disques qu'il se rappelait de son enfance et qui avait fermé il y a des années. Intrigué, Swatat a contacté l'ancien propriétaire qui, absent pendant ses jours de pandémie, l'a laissé fouiller dans une archive poussiéreuse de cassettes au deuxième étage. Et là, il a découvert un trésor, la musique oubliée depuis longtemps qui animait la vie palestinienne pendant les années 1980 quand le premier soulèvement de la première intifada a éclaté. Après avoir acheté beaucoup de cassettes et en avoir rapporté 5 valises pleines à Londres, c'est devant sa mission de numériser et de ressortir cette fenêtre dans le passé. J'ai écouté 10 000 cassettes en 8 mois, c'est bien le Covid, hein. Des tas de trucs de synthé, de funk, de disco, de la musique de mariage, des chants révolutionnaires. J'ai même trouvé des enregistrements faits par mon oncle qui était dans un orchestre de mariage bédouin, a expliqué le trentenaire. Rouen Awa était un ingénieur en génie électrique spécialiste de l'équipement musical. Il a été arrêté après avoir sorti son album de 1987 et la plupart de ses cassettes ont été confisquées. Une des découvertes les plus exceptionnelles a été une cassette jaune vif sans indication dessus, sauf une étiquette avec écrit à la main le mot « Intifada ». Swatat a écouté l'album plusieurs fois. Captivé par les paroles poétiques décrivant une partie perdue et la lutte pour la liberté. À un moment, il a laissé la cassette tourner Et il s'est aperçu qu'après quelques minutes de silence, le compositeur se nommait Riyad Awad. Awad remercia ensuite ses sœurs, Alia, Anan et Namriman, pour leur aide dans la création de l'album, ainsi que Mahmoud Darwish, le poète national palestinien, pour avoir écrit les paroles d'une des chansons. Naim Souetat n'a pu trouver aucune information en ligne sur Riyad, mais il s'est arrangé pour rentrer en contact avec sa sœur Anan, une écrivette et militante célèbre qui a maintenant 70 ans. Et lui en a dit plus sur la manière dont la cassette intitulée « L'album Intifada » a été créée. « Mon frère était un musicien très talentueux. Il était très ému par l'Intifada et la semaine où cela a commencé en 1987, il a réuni la famille dans la salle à manger à Jérusalem et nous a demandé de l'aider à chanter la chanson de l'Intifada », lui a-t-elle dit. Il avait un style unique, il faisait de la musique sur l'identité, ce qui résonnait beaucoup avec notre peuple. Si vous descendiez la rue Salah al-Din dans la vieille ville, tout le monde la jouait. Lorsque l'intifada est devenue de plus en plus sanglante, Anwas a fini par payer le prix élevé pour son art. Les forces israéliennes ont confisqué dans la boutique de musique ainsi que dans les cafés et les commerces qui les jouaient la plupart des 3000 cassettes qu'il avait faites parce qu'il craignait que les paroles, certaines mentionnaient des cocktails Molotov et le jet de pierre, n'incitent le peuple à la violence. Le trentenaire a été tenu plusieurs mois au cours desquels il a été torturé. Il n'a jamais vraiment été inculpé de quoi que ce soit, ce qui était très courant pendant l'intifada, et encore aujourd'hui, a dit Anan. Ils l'ont beaucoup interrogé sur les raisons pour lesquelles il faisait cette musique, ce qu'il voulait faire avec. Nous allons écouter ensemble « I am from Jerusalem » de Riyad Awad, une des chansons de l'album « The Intifada ».
أنا ده القدسي من البلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا ده القدسي من البلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدسي أنا من القدسي أنا من القدسي أنا من القدسي أنا ده القدسي من البلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدسي من البلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدسي أنا من القدسي أنا من القدسي أنا من القدسي الشوارع في المزارع في المصانع في التراب الشوارع في المزارع في المصانع في التراب سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان أنا من القدسي 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 بالبلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدسي بالبلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدسي أنا من القدسي أنا من القدسي أنا من القدسي في الشوارع في المزارع في المصانع في الطرقات في الشوارع في المزارع في المصانع في التراب سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان سأبقى أناضل 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 تحرير الأرض والإنسان. أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس في البلدة القديمة، أنا من شوارعك فلسطين الحبيبة، أنا من القدس في البلدة القديمة، أنا من شوارعك فلسطين الحبيبة، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس. في الشوارع، في المزارع، في المصانع، في الطرقات، في الشوارع، في المزارع، في المصانع، في الطرقات، أبواب المساجد، مداخل الكنائس، طلبوا العدل والسلام، أبواب المساجد، مداخل الكنائس، طلبوا العدل والسلام. أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس في البلدة القديمة، أنا من شوارعك فلسطين الحبيبة، أنا من القدس في البلدة القديمة، أنا من شوارعك فلسطين الحبيبة، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس، أنا من القدس.
Après cette chanson étonnante, je reprends le communiqué de l'agence Média Palestine. Alors, ingénieur en génie électrique de formation, Awad, après sa libération, a lancé une école de musique pour les enfants de Cisjordanie et a continué en formant un groupe appelé Union palestinienne. Awad est mort dans un accident de voiture en 2005. Si Hanan aurait souhaité que son frère soit encore vivant pour voir sa musique redécouverte, elle a dit qu'il aurait été ravi que son œuvre atteigne un nouveau public. J'étais tellement heureuse quand Momine m'a contactée pour demander la permission de ressortir l'album. Il y a eu une importance historique et avec Internet, tout le monde peut le trouver, a-t-elle dit. À son retour à Londres, Swetat a reçu des subventions de Gerwood Arts pour lancer le Majar Project, une plateforme en ligne consacrée à la restauration de l'héritage musical palestinien. La sortie numérique de l'album Inti Wada Awad, qui comprend la chanson que nous venons d'écouter, I Am From Jerusalem, sous le label de Majax Project, a eu lieu à la fin de 2021. La moitié de la production de la version vinyle, prévue pour un lancement en avril, a déjà été vendue. La réponse a été stupéfiante. J'ai eu des messages de jeunes Palestiniens et de ceux de la diaspora me disant qu'ils l'aimaient ou qu'ils l'achetaient comme un présent pour leurs parents qui étaient jeunes quand c'était sorti originellement, a dit Sawat. Nous avons des projets pour ressortir plus de musique, un peu de rock, des enregistrements bédouins traditionnels et des musiques électroniques nouvelles. Une si grande partie de la culture palestinienne a été perdue ou enfermée dans les archives militaires israéliennes, donc c'est magique de trouver cela. C'est un voyage dans le passé et dans l'avenir de tout notre peuple. Je vous propose d'écouter une autre musique palestinienne, une musique actuelle, pour que nous puissions mesurer l'importance de la transmission de l'héritage de la musique palestinienne au sein de la diaspora, en Palestine, et aussi de découvrir son incroyable ouverture sur le monde de jeunes d'un pays complètement bloqué par Israël. Je vous propose donc une chanson d'un tout jeune Palestinien de Gaza qui s'appelle Abdel Rama El Shanti. Il a 12 ans. Il se fait appeler MC Abdoul. En fait, il a repris une chanson d'Eminem, mais il en fait un clip qu'il a filmé dans les décombres de Gaza. Abdel Rama El Shanti alerte sur la détresse de son peuple. Il dit « Je reçois des appels de cousins pour savoir si je suis en vie. Ce ne sont pas des feux d'artifice qui illuminent le ciel. Comment rester impassible devant ce cri d'alarme, témoignage de ces milliers d'enfants brisés par la violence de la colonisation. Brisés, mais en résistance, comme le clame le jeune MC, Kefi autour du cou. Ils veulent occuper cette terre. Je ne les laisserai pas occuper mon esprit. » Si MC Abdoul fait aujourd'hui le souhait d'être écouté, nous ne pouvons que nous en faire le relais, appelant à la solidarité nationale avec le peuple palestinien. Nous écoutons cette chanson, mais ne manquez pas d'aller voir les images du clip, c'est poignant.
Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow and nurture, the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain, take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same. Denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land. Won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life. Because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return, so that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are light in the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Palestine.
Cette première partie historique, musicale, est tellement pleine d'espoir pour l'avenir. Place à la conférence et place à l'histoire avec Pascal Boniface. Pascal Boniface est directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, ça s'appelle IRIS, et enseignant à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Il dirige également la revue internationale et stratégique, c'est une parution trimestrielle depuis 1991, et l'année stratégique, c'est une parution annuelle depuis 1985. Donc vraiment quelqu'un d'expérience qui a beaucoup travaillé. Il a écrit et dirigé la publication d'une soixantaine d'ouvrages ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et le désarmement, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française et aussi, c'est un homme très ouvert, l'impact du sport dans les relations internationales. Il a développé le concept de géopolitique du sport. Il a beaucoup écrit aussi sur le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France. Nombre de ses ouvrages sont devenus des classiques, réédités régulièrement et traduits dans plusieurs langues. Pascal Boniface publie de nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, de développement interne. Il intervient régulièrement dans des médias nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels, et fait de nombreuses conférences et débats en France et à l'étranger. Il est l'un des géopolitologues les plus suivis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Facebook. Il décrit l'actualité internationale en vidéo sur sa chaîne YouTube, dont vous devinez bien le titre, « Comprendre le monde ». Il est éditorialiste pour les quotidiens La Croix en France, La Vergandia en Espagne et Al-Ittihad aux Émirats Arabes Unis. Pascal Boniface est membre du Conseil national de l'éthique de la Fédération française de foot. Il est par ailleurs consultant pour les questions géopolitiques du Musée Olympique et consultant géopolitique pour l'ONG Peace and Sport. Et parmi ses publications régulières, des atlas, des ouvrages de géopolitique qui nous aident à comprendre le monde, et deux titres publiés en 2021, Requiem pour le monde occidental et Géopolitique du sport. Nous écoutons Pascal Boniface.
Je vais revenir sur le conflit israélo-palestinien. C'est compliqué parce qu'il déclenche beaucoup de passions. C'est difficile d'en parler d'un point de vue rationnel. Les accusations fusent rapidement et les débats prennent des tournures parfois très désagréables. Mais il faut revenir aux fondamentaux. C'est effectivement, malgré son ampleur géographique et en termes de coûts humains relativement limité, il y a des conflits qui font beaucoup plus de victimes que celui-ci. Donc il est à la fois limité géographiquement et dans l'ampleur du nombre de victimes, mais c'est celui justement qui déclenche le plus de passion parce qu'il est un peu au centre des rapports nord-sud, de l'éventuel choc des civilisations et des relations entre l'Occident et le monde musulman. Parce que ce que le monde musulman reproche aux Occidentaux, c'est que sans l'aide apportée à Israël, eh bien Israël ne pourrait pas occuper les territoires palestiniens. Et ce que les Occidentaux reprochent au monde musulman, c'est de vouloir faire disparaître Israël. Qu'en est-il exactement? Eh bien, au départ, les Juifs sont présents dans Palestine, ils sont dispersés sous l'Empire romain, ils se font la promesse de revenir l'an prochain à Jérusalem. En 1897, Theodor Herzl publie l'État des Juifs. Pourquoi publie-t-il ce livre? Eh bien, il pense que le peuple juif a droit à un État, que cet État doit être créé en Palestine. Il le fait parce qu'il voit qu'il a été horrifié par l'affaire Dreyfus et qu'il considère que, décidément, les Juifs ne seront pas en sécurité tant qu'ils n'auront pas un État pour les protéger. Des Juifs vont s'opposer à lui, soit parce qu'ils sont très religieux et puis ils considèrent qu'avoir un État, c'est aller contre la parole de Dieu, soit au contraire qu'ils sont très à gauche et ils pensent qu'ils doivent construire le socialisme et que c'est le socialisme qui protégera les Juifs et que c'est en construisant le socialisme, là où on est présent, que l'on pourra dépasser l'antisémitisme. Toujours est-il que la Palestine appartient à l'Empire ottoman et qu'en 1917, Lord Balfour, pour rallier la communauté juive à l'alliance de la Grande-Bretagne, de la France, contre l'Allemagne et contre l'Empire ottoman, fait une déclaration, la déclaration Balfour, qui promet la création d'un foyer national pour les Juifs avec ce principe « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Alors oui, il y avait bien un peuple sans terre qui était les Juifs, mais la terre qui leur était promise, il y avait un peuple, c'était des Arabes qui y habitaient déjà. En 1920, le traité de Sèvres donne la Palestine en mandat à la Grande-Bretagne. En mandat, ça veut dire que le pays n'est pas indépendant, mais que le pays mandataire doit accompagner ce territoire vers l'indépendance parce qu'on considère qu'il n'est pas encore mûr. À l'époque, il y a 10% de la population de la Palestine qui est juive, et le reste est arabe, mais du fait des pogroms, du fait des persécutions antisémites à la fois dans les pays de l'Est, et bien sûr en Allemagne nazie, mais également en Union soviétique, il va y avoir une migration massive, et puis l'appel du sionisme est là, il y a la perspective d'avoir enfin ce foyer national, enfin cet État que beaucoup de Juifs espèrent depuis très longtemps, et donc il y a des migrations massives vers la Palestine, et la proportion des Juifs résidant en Palestine passe de 10 à 30% de la population. Et là, il commence à y avoir des heurts entre Arabes et Juifs, alors qu'ils vivaient en bonne harmonie. Les Juifs, auparavant, sous l'Empire ottoman, avaient un statut mineur, de minorité, de dhimmi. Ils avaient certains droits qui leur étaient refusés, mais jamais sous l'Empire ottoman, il y a eu les scènes antisémites, les massacres qui ont lieu en Europe. Il va y avoir des tensions entre les communautés, principalement, d'ailleurs, pour le contrôle des terres. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde est bien sûr frappé d'horreur par la Shoah, par le génocide juif, et donc il y a plusieurs plans qui circulent pour la Palestine. Il n'y a plus de mandat, les mandats sont terminés, la Grande-Bretagne est toujours en charge, mais elle doit mener la Palestine mandataire vers l'indépendance. Il y a deux plans qui se font face, un État unitaire, qui serait un État binational, où il y aurait juifs et arabes, et la partition entre deux États, un État pour les juifs, un État pour les Arabes. C'est le plan qui est choisi. Ce plan prévoit un partage, 55% du territoire pour les Juifs, 45% pour les Arabes, même si les Arabes sont plus nombreux que les Juifs. Le 14 mai 1948, Ben Gurion proclame la création de l'État d'Israël. La première guerre donc éclate immédiatement et elle est gagnée par Israël qui va étendre son territoire. C'est la Nakba pour les Arabes. Ils fuient et ils sont chassés, il y a aussi du nettoyage ethnique. Et donc Israël fait passer son territoire de 55 à 78% de la Palestine mandataire. Mais l'État arabe ne sera pas créé du fait de la volonté des Arabes puisque la Jordanie occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est, l'Égypte occupe Gaza et donc l'État israélien a bien été créé, l'État arabe, lui, ne l'a pas été, parce que les territoires qui auraient pu donner lieu à la création de l'État arabe sont occupés par la Jordanie et par l'Égypte. À partir de cette première guerre, il y a un refus massif des États arabes de reconnaître l'existence de l'État d'Israël, et pour eux, la destruction de l'État d'Israël fait toujours partie de leur programme. Et Nasser, qui va agiter le nationalisme arabe et le panarabisme également sur l'opposition à Israël, va jouer sur cette corde-là En 1956, c'est l'opération de Suez. En accord entre Britanniques, Français et Israéliens, il y a l'occupation du canal pour protester contre la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Mais l'URSS vient protéger l'Égypte. C'est le début d'une alliance entre l'Union soviétique et certains pays arabes. Et comme les États-Unis ne veulent pas garantir la sécurité de la France et de la Grande-Bretagne, ceux-ci doivent se retirer du canal de Suez. C'est une humiliation pour la France et la Grande-Bretagne. La France et Israël étaient à l'époque extrêmement proches. Il y avait une alliance contre le nationalisme arabe. Shimon Peres avait un bureau au ministère français de la Défense et il luttait eh bien, à la fois contre l'Égypte mais également contre le nationalisme arabe en Algérie qui réclamait l'indépendance refusée par la 4ème République. En 67, c'est la fameuse guerre des 6 jours, une guerre éclair. L'armée israélienne va complètement détruire les aviations égyptiennes et syriennes. Elle va remporter une offensive éclair, une victoire très rapide contre les armées arabes qui sont profondément humiliées. Et Israël conquiert à la fois les territoires qui restaient de la Palestine mandataire, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, mais aussi le Golan syrien et le Sinaï égyptien. L'annexion de ces territoires n'est pas reconnue par le droit international, elle n'est pas reconnue par aucune nation, et il y a une résolution du Conseil de sécurité qui vient rappeler l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force, et donc qui demande la restitution des territoires occupés aux Arabes.
À ce propos, de façon assez visionnaire, dans sa conférence de presse du 27 novembre 1967, le général de Gaulle disait à propos d'Israël « Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris, donc les territoires palestiniens, l'occupation qui ne peut aller sans oppression, virgule, répression, expulsion, et s'il manifeste une résistance qu'à son tour, il qualifie de terrorisme. »
Il y a une inversion des alliances pour Israël, parce que de Gaulle avait mis en garde Israël en disant « N'attaquez pas les pays arabes, si vous êtes attaqué, la France vous défendra, mais si vous êtes les premiers à lancer l'offensive, eh bien, on ne vous soutiendra pas. » Israël, quand même, a néanmoins lancé l'offensive, donc il y a une rupture avec la France, mais les États-Unis vont substituer leur alliance à celle de la France, et c'est à partir de là que l'alliance entre Washington et Tel Aviv va devenir extrêmement forte, alors que jusqu'ici, les États-Unis étaient très réticents à s'engager auprès d'Israël. Le mouvement palestinien va se structurer au fur et à mesure. Il n'est pas toujours en odeur de sainteté auprès des pays arabes qui se méfient de lui, qui se méfient de ses volontés d'autonomie, notamment le roi de Jordanie qui n'entend pas céder les droits qu'il estime avoir sur la Cisjordanie et sur Jérusalem-Est. En 1973, c'est une revanche symbolique pour les Arabes. Ils prennent l'initiative d'un conflit pendant le Kippour. Ils vont très rapidement marquer des points, reprendre des territoires, mais Israël va réagir assez vite, reconquérir les territoires perdus, et soviétiques et américains vont imposer une trêve aux protagonistes. On en revient à la situation qui existait précédemment, mais pour les Arabes, il y a symboliquement, parce que sur le fond, ça n'a rien changé, ils ont dans leur esprit lavé l'affront de 1967. Et puis il va y avoir un nouveau changement d'alliance, cette fois-ci de l'Égypte. L'Égypte se rend compte que l'aide soviétique n'est pas suffisante et que jamais ils ne pourront récupérer le Sinaï s'ils restent dans la même situation. Et Sadat, qui a succédé à Nasser après sa mort, va faire un changement d'alliance, il va abandonner les soviétiques pour s'allier aux États-Unis dans l'espoir de voir le Sinaï lui être restitué. C'est ce qui va être fait avec les accords de Camp David signés en 78 sous les auspices de Jimmy Carter. Sadat et Menachem Begin signent un accord. L'Égypte est exclue de la famille arabe parce qu'on l'accuse d'avoir fait une paix séparée, d'avoir failli à la solidarité arabe et d'avoir joué une carte solo. Elle a récupéré le Sinaï, mais les droits des Palestiniens sont oubliés et le Golan syrien, effectivement, pas du tout dans l'accord global. Et c'est le début donc de l'alliance entre l'Égypte et les États-Unis et de l'alliance et de la paix également entre l'Égypte et Israël. La population égyptienne reste fortement hostile à Israël, mais les deux pays ont une relation diplomatique et il y aura par la suite une paix qui sera également signée par la Jordanie. Donc les deux voisins, les deux pays les plus importants pour Israël, vont signer une paix séparée avec Israël. En 1982, c'est une intervention israélienne au Liban pour chasser Arafat qui est présent, pour mettre fin à la présence de combattants palestiniens. Mais cette intervention qui était annoncée comme limitée par Ariel Sharon à l'époque Premier ministre va aller beaucoup plus loin, l'opinion internationale va s'émouvoir, et puis il va y avoir les massacres de Sabra et Shatila. Ce sont des milices chrétiennes qui commettent ces massacres dans un camp de Palestiniens qui était vidé des combattants, donc vidé des hommes, seuls restaient les vieillards, des femmes et des enfants, mais l'armée israélienne n'est pas intervenue pour empêcher ce massacre, et Ariel Sharon va en payer un prix politique lourd. Et c'est à cette époque que le camp de la paix va naître en Israël, que le mouvement Peace Now, la paix maintenant, va apparaître pour demander une paix avec les Arabes. L'OLP a été créé en 64 par Arafat. Au départ, sa charte demande la destruction de l'État d'Israël, et puis il va, au fur et à mesure, faire évoluer sa position. En 87, c'est le début de l'intifada, la révolte des pierres. Ce sont des jeunes Palestiniens qui combattent à coups de pierre les soldats israéliens. C'est une révolte de l'intérieur, alors que l'OLP, c'est un mouvement de l'extérieur. Et c'est là que l'image d'Israël va changer dans l'opinion, parce que pour l'instant, Israël, c'était le petit pays qui luttait contre la masse des pays arabes. Et là, son image va changer. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a eu la guerre du Liban, et Sabra et Shatila en 82. Et puis là, on voit que ceux qui sont forts, eh bien, ce sont les soldats israéliens, par rapport à des adolescents qui n'ont que des pierres en face. Et donc, l'image d'Israël va changer dans une partie de l'opinion occidentale. Et puis surtout, c'est la perestroïka et la fin de la guerre froide, qui va avoir deux conséquences majeures pour le conflit israélo-palestinien. La première, c'est que finalement, Israël était l'allié des États-Unis dans la guerre froide. Mais s'il n'y a plus de guerre froide, l'importance stratégique d'Israël comme meilleur allié pour lutter contre l'Union soviétique dans la région n'a plus cours, n'a plus lieu. Et donc Israël perd en valeur stratégique. Mais en même temps, Gorbatchev va permettre l'immigration des juifs soviétiques. Il y a 1 million de juifs, ou certains qui revendiquent de l'aide juste pour pouvoir partir, certains uniquement pour les raisons économiques, du monde soviétique, et 1 million de personnes qui vont émigrer en Israël et qui vont durablement changer la composition de l'électorat israélien, puisque ces gens sont très à droite, très sécuritaires, très hostiles à un accord avec les Palestiniens, qui va complètement modifier la balance démographique entre Arabes et Juifs sur l'ensemble Israël, territoire occupé. En 89, Arafat vient en France à l'invitation de Mitterrand. Malgré les protestations des instances communautaires juives, Mitterrand dit qu'il fait la politique de la France, pas la politique des communautés. Et donc Arafat, à cette occasion, annonce que la charte de l'OLP est caduque, pour reprendre son expression. Donc c'est une reconnaissance implicite d'Israël. Et puis il y a la guerre du Golfe de 90-91. Saddam Hussein envahit le Koweït. Les États-Unis et les Occidentaux essayent de rassembler des pays musulmans et arabes pour lutter contre lui. Et Saddam Hussein, en fait, prend le prétexte du conflit israélo-palestinien. Il dit « Je me retire du Koweït si Israël se retire de Palestine ». C'est pour lui un prétexte, mais il sait que c'est un prétexte qui marche beaucoup dans les opinions publiques arabes. Et George Bush, père, essaye de convaincre les régimes arabes de participer à la guerre du Golfe. Ceux-ci leur disent « Écoutez, on aimerait bien, mais on ne peut pas, notre opinion est très remontée contre Israël. On ne peut pas nous demander de participer à un conflit pour punir un pays arabe qui ne respecte pas le droit international, alors qu'Israël ne le respecte pas. » Et George Bush prend l'engagement de s'occuper de façon réelle du conflit israélo-palestinien après la guerre contre l'Irak, mais en disant « la priorité, c'est l'Irak, il a envahi le Koweït, c'est votre un pays frère pour vous, faisons la guerre ». Et donc de nombreux pays arabes, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, vont participer à la guerre du Golfe en 91, ce qui va éviter de présenter ce conflit comme étant un conflit entre les Occidentaux et les pays arabes. C'est un conflit entre la communauté internationale et un pays, l'Irak, qui a violé le droit international. Les régimes arabes se servent beaucoup du conflit avec Israël, d'une part pour imposer des lois d'urgence, pour imposer la censure, pour imposer finalement des régimes militaires et pour restreindre les libertés au nom du combat contre Israël. Et puis ils disent également soutenir les Palestiniens, mais ils le font en fait du bout des lèvres parce que la cause palestinienne est très populaire dans les opinions publiques du monde arabe, mais les régimes arabes sont plus réticents, ne serait-ce que pour les monarchies, c'est un mouvement républicain, c'est un mouvement laïque pour les pays les plus religieux, et donc il n'y a pas de réel soutien aussi fort que cela de la part des pays arabes. Les régimes arabes se servent en fait de la menace israélienne pour instaurer des régimes militaires et pour réprimer l'intérieur, et ils se servent de la cause palestinienne pour rallier leur population sans faire réellement des choses très sérieuses. Et George Bush va tenir sa promesse. Et une fois que la guerre du Golfe est terminée, il va s'opposer au premier ministre israélien, Isaac Shamir, en lui disant que s'il continue à installer des colonies en Cisjordanie, eh bien, il arrêtera de garantir des prêts à Israël. C'est un choc en Israël, parce qu'on pensait que le soutien américain était acquis. Et donc cette menace fait un peu réfléchir l'électorat israélien, qui du coup va voter en faveur de Rabin pour les élections, qui est travailliste, alors que Yitzhak Shamir était, lui, du Likoud. Et c'est donc les travaillistes qui vont remporter les élections. Et Isaac Rabin, lui qui avait dirigé la première répression de l'Intifada, qui était très dure, c'est un général, il était considéré comme un faucon dans un premier temps, eh bien Isaac Rabin va comprendre que la situation géopolitique a changé, que l'Union soviétique n'est plus là, que le rôle d'Israël comme allié de l'Occident dans la guerre froide a été modifié, et que la perception dans les opinions publiques occidentales de l'Intifada a également modifié les choses. Et donc il comprend que l'intérêt national d'Israël, il ne le fait pas par amour des Palestiniens, il pense que l'intérêt national d'Israël doit le conduire à faire une paix froide, une paix qui n'est pas une paix entre peuples qui s'aiment. Et donc vous allez avoir deux leaders, Arafat chez les Palestiniens, Isaac Rabin chez les Israéliens, qui vont aller vers la paix alors que leur opinion publique y est hostile. Et donc c'est un peu une paix qui est imposée du haut, il y a encore des réticences dans les opinions, mais l'un et l'autre ont compris qu'il faut un compromis territorial, c'est les territoires contre la paix. Israël s'engage à restituer les territoires, les 22% de la Palestine mandataire. On ne revient pas sur le partage sur la guerre de 48, on revient sur celle de 67. Et donc, on a la perspective de la création d'un État palestinien sur les territoires conquis en 67, en échange de la reconnaissance par la Palestine de l'État d'Israël. Et ce sont des accords d'Oslo qui vont avoir une reconnaissance officielle aux États-Unis à la Maison-Blanche. Et donc, c'est la perspective d'une paix entre Israéliens et Palestiniens. Ces accords ne sont pas tout à fait égalitaires. Les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël. Israël reconnaît l'autorité palestinienne. Et donc, les problèmes, les réfugiés, les frontières, Jérusalem-Est sont reportés à plus tard. Et pendant ce temps-là, le grignotage des territoires palestiniens va continuer. On va continuer à installer des colonies. Mais c'est surtout, en novembre 1995, l'assassinat d'Isaac Rabin par un extrémiste israélien qui va faire complètement dérailler le processus de paix. Parce qu'à partir de là, Rabin, qui incarnait l'homme fort, qui pouvait imposer la paix, qui était crédible de par son passé, eh bien, va manquer effectivement, et qu'il va y avoir des retards. Netanyahou va reprendre le pouvoir, va retarder les négociations. Par la suite, les travaillistes vont regagner le pouvoir, reprendre les négociations avec Arafat, et ça va être l'échec de Camp David à l'été 2000. Et cet échec va être attribué à Arafat, les Palestiniens vont être de très mauvais communicants. Les propositions qui étaient faites par l'Israël n'étaient pas tout à fait acceptables, on n'y avait pas grand-chose sur Jérusalem, les Israéliens demandaient de garder encore une grande partie de la Cisjordanie, mais Arafat aurait pu dire « on continue à négocier ». Il ne l'a pas fait, il a refusé les accords proposés à Camp David, et Ehud Barak est revenu en Israël en disant « nous n'avons pas de partenaire ». Les élections qui ont suivi ont forcément amené Ariel Sharon au pouvoir, lui qui s'opposait aux accords depuis longtemps. Le Likoud s'est toujours opposé aux accords d'Oslo, et Netanyahou et Sharon avaient mené des campagnes extrêmement dures contre Isaac Rabin lorsqu'il était Premier ministre. La veuve d'Isaac Rabin leur l'a d'ailleurs toujours voulu. Et donc, si vous avez un Premier ministre travailliste qui vient vous dire « nous n'avons pas de partenaire », ben les Israéliens, très logiquement, ont voté pour celui qui disait ne pas vouloir de négociation, plutôt que de voter pour celui qui disait vouloir négocier, tout en déclarant officiellement qu'il n'y avait pas de partenaire. Et puis, en septembre 2000, Ariel Sharon fait une visite sur l'esplanade des mosquées. Les services de sécurité israéliens avaient averti de ne pas le faire. Ça va enflammer l'opinion palestinienne. C'est la reprise de l'intifada et le Hamas qui a été en embuscade. Le Hamas qui, lui aussi, de son côté, n'avait jamais admis les accords d'Oslo, qui avait continué à organiser des attentats pour faire dérailler le processus d'Oslo. Le Hamas va reprendre les attentats sur une grande échelle. Isaac Rabin disait « Je continuerai le processus de paix comme s'il n'y avait pas de terrorisme et je combattrai le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix. » Mais une fois que Sharon est au pouvoir, il ne va pas reprendre bien sûr ce principe puisque lui est hostile aux négociations et il va y avoir le cycle terrorisme, répression et on va détricoter les accords d'Oslo au fur et à mesure. Les espoirs de paix vont s'envoler. Et si on doit se rappeler qu'en 1993, des enfants palestiniens allaient offrir des bouquets de fleurs aux soldats israéliens, on voit bien que tout ceci est parti en fumée à partir du début des années 2000. Le 11 septembre 2001 va encore aggraver la situation. George Bush se demande dans un premier temps pourquoi on nous haït alors que nous sommes si bons. Et Ariel Sharon va lui fournir la réponse. en disant « Nous avons notre Ben Laden, il s'appelle Arafat ». Il va de nouveau y avoir une association entre Arafat, le terroriste, les Palestiniens, alors que c'est les Hamas qui commet les attentats et non pas les gens autour de Arafat. Eh bien, c'est le processus de paix va réellement voler en éclats. En décembre 2004, Arafat décède. Il est remplacé par Mahmoud Abbas, qui est favorable à la négociation. Mais Ariel Sharon va avoir une évacuation de Gaza de façon unilatérale. Il y avait 7000 colons à Gaza. Il les retire, ce qui est une bonne chose, mais sans négocier avec Mahmoud Abbas. Et donc ce retrait unilatéral ne va pas réellement faire avancer la cause de ceux qui veulent négocier avec Israël dans le rang palestinien. Et le Hamas va dire, vous voyez, il faut lutter, seule la voie armée permet d'obtenir quelque chose. Et le Hamas va, peu après, prendre le contrôle de la bande de Gaza, remporter l'élection législative de 2006 parce que Mahmoud Abbas ne peut pas dire aux Palestiniens qu'il a obtenu quelque chose par la voie de négociation. Et donc, eh bien, c'est la voie de la radicalité qui va l'emporter. Le Hamas remporte les élections et du coup, tous les gouvernements occidentaux, puisqu'ils considèrent le Hamas comme un mouvement terroriste, vont cesser les relations officielles avec le gouvernement palestinien, ce qui va alimenter le ressentiment en Palestine, puisqu'ils disent « Vous avez fait la guerre d'Irak en 2003 au nom de la démocratie, mais quand nous, au vote, vous n'êtes pas d'accord et vous ne reconnaissez pas ce gouvernement. » Depuis, il y a eu une nouvelle guerre au Liban en 2006, il y a eu deux guerres sur Gaza. Gaza est soumis à un blocus de la part d'Israël, mais aussi de la part de l'Égypte, des deux côtés. Ce n'est pas qu'Israël qui soumet à un blocus, donc la situation politique, sanitaire, sociale, économique est tout à fait catastrophique à Gaza. Il y a eu deux fois des bombardements, 2009-2014, de cette population soumise à un blocus extrêmement sévère, et on peut dire que eh bien, les espoirs de paix se sont envolés. Ils sont volés pour plusieurs raisons. D'une part, il y a eu un glissement à droite de la société israélienne. Le camp de la paix a quasi disparu. Les organisations pacifistes qui prônent le dialogue avec les Palestiniens sont marginalisées, sont même combattues par Netanyahou. Elles n'ont plus l'audience qu'elles ont eue dans le passé. Et le mouvement à la paix maintenant est vraiment défait. En Palestine, la Palestine est séparée à la fois territorialement et politiquement entre le Hamas qui contrôle toujours la bande de Gaza, l'autorité palestinienne qui contrôle la Cisjordanie, mais qui a perdu en légitimité, puisque Mahmoud Abbas a été élu en 2005, il n'y a pas eu d'élection depuis, et puis il y a des accusations de mauvaise gestion, de corruption, qui courent à son encontre. Israël, diplomatiquement, a marqué beaucoup de points, parce qu'il y a toujours le soutien indéfectible des États-Unis, encore plus indéfectible avec Donald Trump, qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, qui donne son accord à l'annexion de territoire, toute chose que aucun président américain n'avait fait dans le passé. Mais Poutine a d'excellentes relations avec Netanyahou, les Chinois également d'ailleurs, ils investissent beaucoup, il y a des connexions technologiques qui sont très bonnes. L'Europe, qui très longtemps a milité en faveur des Palestiniens, est divisée, les pays de l'Est suivent la voie américaine, et les autres pays sont moins militants qu'ils n'ont été pour la paix auparavant. L'Allemagne ne veut rien dire contre Israël, et l'élection de Bolsonaro au Brésil a amené aussi un allié de poids pour Israël. Donc Israël, en fait, a diplomatiquement un champ ouvert, il n'y a pas de pression sur Israël pour parvenir à la paix, et donc les Israéliens considèrent qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts. Mais la situation reste quand même une bombe à retardement. La cause palestinienne est agitée à droite à gauche pour tenir tout discours anti-occidental, et y compris les meilleurs amis d'Israël reconnaissent que c'est un mauvais prétexte, mais c'est un prétexte qui est utilisé par tous ceux qui veulent développer la haine de l'Occident, qu'il faudrait mieux parvenir à un accord. Mais il est certain qu'on est loin d'un accord et qu'aujourd'hui, on ne voit pas ce qui pourrait conduire à un accord de paix du fait de la dérive extrêmement sécuritaire et droitière d'Israël, notamment avec ce nouveau gouvernement, puisque la question palestinienne n'existe plus. Auparavant, en Israël, les élections étaient « Est-ce que vous êtes pour la paix ou est-ce que vous êtes contre les négociations avec les Palestiniens ?» Aujourd'hui, c'est même plus une question qui est posée. Personne ne veut réellement négocier avec les Palestiniens. Et donc, il y a en fait une véritable bombe à retardement de cette situation dont la communauté internationale se lave les mains et les pays arabes ont renoncé. L'Égypte est très liée à Israël. Elle a une aide américaine qui dépend de sa bonne entente avec Israël. Et les Saoudiens, même s'ils ne peuvent pas le faire publiquement, se sont reprochés d'Israël parce qu'ils ont un ennemi commun, qu'est l'Iran. Et donc, la menace iranienne a rapproché de façon très forte, même si ce n'est pas public, l'Arabie Saoudite et Israël. On en est où? Bah, un accord de paix qui n'existe pas et qui paraît irréalisable. Israël contrôle extrêmement bien les territoires palestiniens, est à l'abri, il n'y a plus d'attentats. Bon, il faut quand même rester prudent sur l'avenir. La situation reste quand même extrêmement délicate. Et surtout, la seule chose que craint Israël, ce sont les combats dans l'opinion publique. Le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, parce que effectivement, dans les opinions publiques, eh bien, la cause, disons, palestinienne, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reste forte. Et donc, il y a cet effet un peu ciseau entre des gouvernements qui ferment les yeux sur la situation en Palestine et l'occupation israélienne, et des opinions publiques qui, elles, sont toujours très sensibles à cette question-là.
Masal khair, bonsoir, good evening, bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Thank you for coming and listening to us. Thanks for the festival to invite us. This is maybe the first time we're performing in Paleo Festival. We are full of energy, although we didn't sleep, but because we didn't sleep, we are full of energy. We just arrived yesterday, we had a concert in Ireland, and the day before we were in Malaysia. So try to imagine all the energy that we are holding with us for you. We will present our new album called Asfar. Asfar in Arabic means travels, and we name it Asfar, and we wrote it in English as far. We try to go with our lovely instruments as far as we can go. We are coming from Palestine, from the north of Palestine, from Nazareth. We're based in Paris, but we travel all the world with this beautiful weapon that we are holding with us. This weapon doesn't kill, this weapon makes people love. We wish, I'm not gonna speak nothing about politics, but I wish I will be one day Swedish, not to speak about Sweden, but because we are Palestinians, it's our mission to hold our culture with us. It's our mission to be all the time having a hope with us that one day we will have our country free. And we will invite you for a free concert. Merci beaucoup.